Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 16. Nous allons aborder la photographie extérieure. On va parler d'un petit site intéressant pour redimensionner ou rogner des photos. Et ensuite, on vous réserve plusieurs critiques d'appareils Sony. On fait un 3 dans 1 Sony avec la RX100, la NEX 5R et la NEX 6. On y va maintenant. L'équipe habituelle est présente comme d'habitude. Bonjour Christian.
Bonjour Stéphane.
Bonjour François.
Salut.
Et on a notre invité de l'épisode dernier, Mathieu Genet, qui est toujours avec nous.
Allô.
Ben, sans plus tarder, on va répondre à un abonné Twitter qui est JFO Ferguson, qui nous a posé la question « Quoi faire pour protéger son boîtier quand on fait de la photo à l'extérieur, donc en cas de chaleur extrême, de froid extrême, de pluie, de neige? Et François a des petits trucs pour nous. »
Mais en fait, je pense qu'on en a toutes, mais en fait, si on résume un peu les conditions dont sont soumis nos appareils, souvent on passe du chaud-froid, du froid au chaud, la pluie, la neige, tout ça. Moi, mes trucs pour passer du chaud au froid, ben c'est pas compliqué, c'est il y en a pas. Il y a pas de problème.
Donc il y a pas de danger de passer
quand on passe du chaud au froid, il y a pas de problème, sauf si on passe d'un milieu chaud et humide à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si c'est on est dans un environnement humide, souvent il va s'être déposé un petit peu de particules d'eau.
Sans faire nécessairement de condensation.
Exactement. Mais si on passe au froid, ben là, ça gèle, ça devient de la glace, là. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça dépend de la qualité de notre appareil. Quand on a un appareil de bonne qualité, c'est supposé résister à ça très facilement. Les plus petits appareils, là, les mécanismes vont en souffrir. Mm-hmm. Je parle des petits point and shoot, là, qui vont peut-être avoir de la misère avec le zoom, tu sais, ils vont pas vouloir sortir de l'appareil ou tout ça. Mm-hmm. Donc, passer du chaud, humide au froid, ça pourrait être problématique pour certains appareils. La solution, c'est de sécher son appareil, d'enlever l'humidité qu'il y aurait
dessus
avant de sortir.
De mettre dans un gros sac de riz, finalement.
Pourquoi pas essayer ça.
Mais sinon, dans son sac photo, on peut traîner des petits sachets de silicate, là,
Le silice, en fait.
Ouais. Et ce qu'on trouve dans les boîtes de chaussures.
C'est un excellent truc.
Ouais. Moi, j'en ai toujours un dans mon sac photo, au cas.
Si on passe du froid au chaud, il y a toutes sortes de trucs possibles. Je suis sûr que vous allez en connaître que je connais pas. Moi, mon truc que j'ai, c'est pas bien compliqué. Il faut se donner une période, il faut calculer dans notre journée que si on passe du froid au chaud, que l'appareil doit dégeler. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment de truc à part l'emballer peut-être avec un sac qui commence déjà à être un peu chaud, tu sais, pour que le choc thermique soit moins important qu'on arrive à l'intérieur. Mais c'est un principe physique. On est dehors, c'est froid, on passe au chaud, il y a tout de suite de la condensation qui s'installe. Mm-hmm. Il y a des détecteurs d'humidité dans l'appareil qui vont le fermer carrément. Ils vont dire que l'appareil ne fonctionne pas parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de court-circuit dans le système électronique. Ça va se fermer. Il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire pour ça, que vous connaissiez quelque chose.
Non,
c'est attendre.
Tu dis ça, puis il n'y a pas longtemps, je suis allé au Biodôme, j'ai pris quelques photos du stade olympique dehors, puis j'ai comme pas réfléchi à ça du tout. En rentrant dedans dans le Biodôme, c'était complètement embué, il n'y avait rien à faire.
C'est incroyable, là, pour ceux qui ne connaissent pas le Biodôme, c'est un endroit où il y a plusieurs écosystèmes, c'est des animaux. Puis il y a la forêt tropicale.
C'est ça, tu commences, t'es dans la jungle.
Oui.
Tu sors, c'est comme moi, là, il faisait moins 15, moins 20, je prends quelques photos, tu rentres, t'es rendu dans la jungle. Oublie ça, là, ça a été 20 minutes sans pouvoir prendre de photos.
Ceci étant dit, cet environnement-là, c'est tellement humide, mais tellement humide que même un appareil qui est à température normale,
ça embue un peu.
Pour y être allé faire des tournages de temps en temps, il faut attendre. Il faut attendre que la condensation disparaisse, que l'humidité un peu envahisse l'appareil pour que ça devienne stable.
J'ai pas donné le meilleur exemple en partant.
Non, c'est assez violent, mais...
C'est assez violent.
T'as donné des conditions extrêmes.
Ouais, ouais, c'est des conditions extrêmes, là. Ben,
parce que tu entends, il fait genre 30 là-dedans, puis l'humidité dans le tapis.
Ah, il fait plus que ça. Je suis convaincu qu'il fait plus que ça.
Fait que un truc rapide, disons, bon, on rentre à l'intérieur après avoir passé du temps à l'extérieur. Tu sais, il faut qu'il fasse quand même assez froid, là. Tu sais, on parle pas de moins 5 degrés, puis passer à l'intérieur que ça...
Non, on parle d'un froid québécois, là. Ouais. Comme aujourd'hui, moins 5, à moins 39 serait... avec le vent.
Ouais. Mais non,
j'aurais pas
que...
sorti ma caméra d'or aujourd'hui, j'avoue, là.
Moi, j'ai... Non, je suis sorti peut-être 10 minutes ce matin, mais je suis pas sorti de la journée. C'était terminé.
T'es chanceux.
Ouais.
Il y a quand même quelques trucs pour accélérer, évidemment, la tempérisation, comment je pourrais dire, de notre appareil. C'est-à-dire, on pourrait installer notre appareil sous un séchoir à main.
Avec de l'air sec, ouais, finalement.
Exactement. Mm-hmm. Fait qu'en plus de sécher la condensation, ça va tempérer. Puis ce qu'il faut viser, c'est l'objectif, surtout, parce que c'est l'objectif où il s'installe. Mm-hmm. Il peut s'installer une certaine condensation, ça va donner un petit point blanc au milieu de l'objectif. Mais ça, c'est des froids assez intenses, là. Mais bon, ça, c'est un des trucs qu'on peut utiliser.
C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, parce que j'ai un de mes collègues au bureau qui vient de s'acheter une Sony, une DSLR Sony, puis il me posait justement cette question-là aujourd'hui par rapport à s'il y a un froid, puis un chaud après, est-ce qu'il y a de la condensation, c'est ce que ça se fait à l'intérieur de l'objectif. J'étais comme, ouais, mais ça doit pas être tant que ça non plus. Il doit pas... Tu sais, à l'intérieur même de l'objectif, tu dois pas en avoir tant que ça.
Parfois extrême.
Oui, parfois extrême. Ouais. Mettons comme aujourd'hui, ça oui, ça je le crois. Là, si on part d'un bureau là, qui est à 20 quelques degrés, puis on sort dehors à moins 30, oui, ok, ça je suis d'accord.
Non, du chaud au froid, il n'y a pas de problème.
L'inverse.
Oui, du froid au chaud.
Oh, l'inverse.
Oui, si on a un très grand froid, on parle de peut-être... Bon, c'est pas scientifique, là, c'est de l'expérience. Là, entre moins 15 puis moins 20 degrés Celsius... et plus, évidemment, si on entre à l'intérieur, oui, il va se former une espèce de petite pellicule dans l'objectif, là, carrément au milieu des lentilles.
Donc, on pourrait parler d'une différence de plus de 30 ou 40 degrés, disons. Là,
oui, mais bon, j'ai pas les chiffres, là, les scientifiques dans ce que j'affirme, mais c'est...
Mais encore là,
il va se former toujours un petit point blanc au milieu de l'objectif. Il n'y a pas moyen de prendre une photo... clair à ce moment-là, il va toujours avoir une espèce de flou, là, tu sais. La même chose que s'il y avait un petit quelque chose de collé sur l'objectif.
Lire, faites pas, prenez pas de risque, faites-le pas.
Non, c'est ça, attendez un 20 minutes,
ou prévoir d'attendre le temps que ça tempère.
Ou, tu sais, je sais pas moi, trouvez-vous un endroit où c'est un petit peu moins froid, là, un entre-deux pour essayer de descendre la température plus graduellement.
Oui, tout à fait.
Un garage, par exemple, ça pourrait être une option qui est intéressante. C'est souvent beaucoup moins froid que l'extérieur, mais c'est quand même assez froid pareil.
La meilleure solution reste quand même le séchoir même.
La plus rapide, en
Parce que c'est pas trop violent. Évidemment, si on colle pas l'appareil, c'est directement sur la bouche de sortie, mais tu sais, si on va dans la zone où c'est un petit peu moins brûlant, là, ça va régler le cas de l'appareil en, je dirais, quelques minutes. Là. Mais on a l'impression que l'enveloppe extérieure va être chaude, mais l'intérieur va encore être froid. Fait que, bon, il y a ça. Pour les éléments, la pluie, la neige, vous avez sûrement tous vos trucs aussi pour ça.
Ben moi, on m'avait... sac de plastique. Tout simplement, c'est ce qu'on m'avait dit dans mon cours de photo.
Moi, je vais paraître redondant, me semble que c'est tout le temps la même chose que je dis. Je suis allé sur eBay, 5$, sac de plastique, mais moulé. C'est ça que je trouve intéressant, parce qu'il est un petit peu plus moulé. Puis ce que tu fais, c'est que, mettons, c'est le terme que je cherche en anglais, en français, le lens hood.
Le pare-soleil.
Le pare-soleil, exactement. Le truc, c'est d'accrocher le pare-soleil sur le plastique pour que le pare-soleil fasse comme entre les deux. Fait qu'idéalement, c'est sûr que ça va mieux quand tu as un pare-soleil, là. Mais moi, c'est le truc que j'ai utilisé le plus souvent. J'avais un emballage de plastique qui était vraiment fait en conséquence. Ça m'a coûté 5$. Genre, c'est une vraie blague, encore une fois. Mais j'ai trouvé ça commode. Puis j'en avais deux. J'en avais même un avec. Qu'on pouvait avoir le Flash Cobra, puis l'autre sans Flash Cobra. Mais bon, avec le Flash Cobra, ça donne un résultat étrange au travers du plastique, là. Mais bon. Donc, celle-là, je l'ai trouvé weird, là, mais c'était 5$ pour les deux. Fait, j'ai pas fait de trouble, mais c'était commode. Puis lui, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, c'est vraiment... On coupe certaines parties pour avoir accès au contrôle, aux affaires, mais pas être à... comment je pourrais dire, protéger des éléments, etc. Ça vaut la peine. C'est pas... un sac de plastique ordinaire va faire aussi la c'est sûr et certain. Mais prenez-en un épais. Prenez pas un sac d'épicerie là, très, très, très mince. Je vous conseille un petit peu plus épais que ça.
Au prix qu'on paye nos appareils, tu sais,
ça vaut la peine de les protéger. Là.
Il y en a là, de toutes les gammes, encore une fois, sur un site que j'adore beaucoup qui s'appelle B&H. On part de entre 40$ et 180$. Si on veut un sac qui est adapté à notre lentille, à notre objectif, disons, de 70-200 mm, qui est quand même assez long, tu sais, physiquement.
Et c'est ça qui est dommage, parce que lorsqu'on a plusieurs types de lentilles et qu'on veut en utiliser plusieurs, ça devient vite, ah, il m'en faut un pour ma 70-200, il m'en faut un pour ma 20-70.
C'est-tu ce que je fais dans ce temps-là, moi? J'ai, dans le cadre de mon travail, je suis caméraman, donc je travaille en vidéo, j'ai souvent des caméras sur l'épaule qui coûtent 25, 30, 40 000 $. C'est des appareils très chers. Ben, un sac à vidange.
Un sac à ordures.
Oui, ça bon. Fait l'affaire. Pourquoi? Parce que je peux faire mes trous aux bonnes places rapidement, puis c'est étanche. Si je suis pas sûr d'étanchéité, ben j'en mets deux. Écoute, c'est super ghetto, là, comme...
Le look, il doit être vraiment élégant, là.
Mais c'est efficace. Moi, si
moi, mon truc, là, c'est le Saran Wrap.
OK.
T'entoures de Saran Wrap tout ton équipement. Okay. Fait que comme ça, tu peux faire plusieurs tours. Et avant qu'une goutte d'eau tombe sur ton équipement, ça va prendre beaucoup de temps.
Bon, mais tu sais, on a toutes nos façons de faire.
C'est ça.
L'idée, c'est de pas faire surchauffer l'appareil. Faut qu'il y ait de l'air. Fait que faut juste comme y laisser une certaine ventilation. Mais sinon...
Mais pour l'objectif, ça pose pas de problème. Non. Qu'il n'y ait pas de ventilation, mais c'est au niveau du boîtier.
Oui, tout à fait.
Bon. Okay. Excellent. Alors, j'espère que ça répond bien à la question.
Il y avait beaucoup de trucs, en tout cas.
Toujours des trucs qui sont pas chers. T'sais, souvent, on se dit qu'il faut tout le temps payer l'équipement le plus cher, mais souvent, si on a un peu d'imagination, on peut trouver n'importe quoi et faire quelque chose d'excellent.
Absolument.
C'est ça qui va faire la différence entre... photographe qui va avoir dépensé des milliards de dollars pour arriver à quelque chose, quelqu'un qui va être chez eux puis qui va juste se débrouiller, qui va arriver à faire la même chose.
Mais je serais curieux de savoir l'équipement que celui qui a dépensé des milliards de dollars.
Parce que avec juste 1 million, Christian déjà s'équipait pas mal.
Seigneur, oui, je suis même pas inquiet.
Mais
pas besoin d'aller à 1 million, crois-moi.
Alors bon, passons à l'autre sujet. On va laisser François sur sa lancée. Il va nous présenter un petit site intéressant.
Oui, ben en fait, c'est un site qui s'appelle BIRM ou BIRM en anglais. Si je l'appelle, c'est B-I-R-M-E, ce qui veut dire Batch Image Resizing Made Easy. L'idée de ce site-là, c'est hyper simple. C'est un petit script, une petite page web, toute simple, qui sert à faire son recadrage photo de masse. Donc, exemple, j'ai un dossier avec une quinzaine de photos que je vais envoyer à ma tante Lucille. Puis je le sais, elle, qu'elle n'a pas besoin d'avoir le format, le plein format de mes photos. Je voudrais y envoyer en 800 par 600, par exemple. Ben, j'arrive sur ce site-là. Et puis, une petite interface web qui me permet d'uploader mes photos puis de décider dans quel format je vais les recadrer. Donc, oui, Christian?
Ça veut dire téléversé.
Ah, OK. Téléversant. Soyons français.
Non, je sais pas. Regarde, je trouve le terme très...
Moi, je suis pas habitué encore.
Non, je sais, moi non plus.
Mais moi, j'aime ça. Ben, je suis pas habitué, ça joli, mais j'aime pas... bien ça. Ouais,
ça ressemble à ça, moi, avec.
Donc, c'est hyper simple, puis quand même pas compliqué à utiliser du tout. Mm-hmm. C'est le principe de dire on sélectionne les photos, on les drague et drop. Directement sur la page.
Glisser-déposer.
Ils apparaissent. On voit même l'aperçu du format qu'on désire après, une fois qu'ils sont... Mm-hmm. Voici, par exemple, mon expérience sur le site personnel. Parce que quand je suis arrivé dessus, je me suis dit, tiens, je vais prendre mes photos, je vais faire le test, voir si ça fonctionne bien. Ça part assez mal, je vous dirais.
C'est pas un succès?
Ben, j'ai un nouvel ordinateur, puis j'ai pas encore installé tous les furteurs dessus, puis j'ai Internet Explorer 9, OK, par exemple.
OK, dessus, non, ben, tu vois que ton problème est drette là, là. Excuse-moi de le dire.
Ben oui. Ben, en tout cas,
c'est mieux qu'Internet Explorer 6.
Bon, ouais, en tout cas. Bon, en partant, pas la barre d'un autre, là.
Ça me dit sur le site, on n'est pas tellement...
chaud à l'idée d'Internet Explorer.
Oui, il y a un message qui dit « ça marche pas tellement bien avec Internet Explorer 9, utilise donc plutôt Chrome ou Firefox. »
Oui, mais c'est une question d'HTML5, je pense.
Probablement.
Sûrement.
Parce voilà. que HTML5 et Internet Explorer, en tout cas neuf.
HTML tout court et Internet
Mais tu sais, moi qui n'ai pas nécessairement au courant du HTML5 ou tout ça, je veux juste aller sur Internet, là, tu sais. Ben, on me dit ça en partant, je fais comme « bon, ok ». Fait que je suis allé voir avec Chrome, puis bon, ça fonctionnait bien, effectivement, question d'HTML5, j'imagine.
Mais tu vois, ça a eu une bonne... C'était une bonne chose que tu testes ce site-là, ça t'a forcé à installer Chrome.
Oui, ben ouais, je l'avais déjà sur mon autre ordi, mais puis bon, j'ai téléversé, hein, Christian, ma quinzaine de photos.
Deux points.
Ma quinzaine de photos, mais le script sur la page a planté.
Ah, oh.
Pourquoi? Ça me donnait l'impression que c'était lent. Pourtant, j'ai un ordinateur là, très à jour, là.
C'est ta connexion Internet, je sais
pas. Non plus, je penserais pas que c'est ça, parce que j'ai une erreur de script qui est apparue sur la page.
Okay.
Donc, puis je voyais que c'était un petit peu lent, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ok, c'est... Mais je salue vraiment le concept. Le concept, oui, parce que c'est vraiment génial, c'est hyper rapide à faire. Puis il faut dire, il faut que je le mentionne, c'est la version bêta, là,
ouais, ouais,
en ce
bon.
Moment. C'est écrit gros... comme le bras.
Bon, alors voilà. Ils sont encore en phase de test. Puis peut-être que plus que 14 images, ça ne fonctionne pas.
C'est ça, rendu à 15, c'est là que ça a busté.
Moi, mais... j'ai quand même une petite question. Si, mettons, on téléconverse notre image, une batch d'image, ouais. Est-ce qu'il est possible d'envoyer directement du site à plusieurs personnes?
Pas encore. Ce qui est possible de faire, c'est qu'une fois qu'on a mis les photos sur le site, on a plusieurs options de recadrage. Ça peut être en pourcentage ou en pixels. Des fois, il y a des sites qui nous demandent une photo de profil, puis on veut que ça soit 100% ouais. ou quelque chose comme ça. Bon, ça se fait rapidement. La seule option d'exportation, c'est de le sauvegarder en format zip, localement. Donc, t'as pas encore l'option de dire « je veux l'envoyer à tel email ». Par exemple, ça serait une super bonne suggestion à faire aux auteurs du site. Puis, je suis pas mal certain qu'ils l'ont déjà en tête. Mais pour l'instant, non. C'est la seule option d'exportation... c'est Save to Zip.
Mais là, j'inviterais tous les auditeurs à aller visiter le site et faire la suggestion à l'auteur avec la quantité de suggestions, de messages qu'ils vont recevoir. Il n'y aura pas le choix d'implanter cette
Ouais. Moi, cette personnellement, la façon de faire, ça reste que tu envoies ta photo sur un serveur parce que la photo, elle reste pas du tout locale. Hein. On parle d'un site web. Là. Donc, quand tu envoies ta photo, ça s'en va sur le serveur là-bas. Bon, tu sais, j'uploaderais peut-être pas n'importe quelle photo là, pour cette raison-là, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils font avec la photo à l'autre bout. J'ai pas trouvé d'informations sur le site à propos de ça.
Comme Instagram, ça demeure un service gratuit.
Oui, tout à fait.
Mon humble opinion, ils doivent... Parce que c'est pas le genre de place qui risque d'avoir des serveurs qui peuvent storer les photos à long terme. Ouais. Je doute qu'ils gardent tes photos.
Je suis bien d'accord avec toi.
Surtout parce qu'ils font des trucs de masse.
C'est ça, ça prend beaucoup d'espace.
Ça grossit vite.
Ça grossit rapidement.
À cause que c'est un script, là, c'est pas rapide.
Tout est des scripts. Mais
c'est pas rapide. Tu sais, c'est vraiment pas rapide. C'est
lent. Ça dépend de la taille de tes fichiers, peut-être aussi. Parce que si quelqu'un utilise. Ils ont peut-être testé avec du 12 mégapixels, puis toi, tu as du 18 en RAW. Non, tu as du JPEG.
Non, j'ai envoyé des photos moins lourdes.
Ah, OK.
Des photos d'en bas d'un meg chaque. Là,
ah,
oui,
OK.
Puis il faut quand même uploader. Ben là, je dis le terme anglais. Là, mais
téléverser.
Il faut quand même le faire pour chaque photo. Si c'est un meg par photo, ben il faut le téléverser. Là, chaque photo, si tu en as 15. C'est relativement rapide parce qu'il fait un genre de thumbnail, mais il faut qu'il travaille l'original pareil. Non, tu sais, j'ai pas trouvé ça hyper rapide comparé à des logiciels de retouche photo qui ont ça d'intégrer la plupart du temps.
Ouais.
Mais le concept, il est à travailler selon moi, mais il est parfait. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
Et ça peut dépanner, t'as 3 ou 4 photos, ou même peut-être 8 ou 10 éventuellement, quand le script va être vraiment optimisé.
Mon bémol, c'est sur la retouche photo de masse.
Ouais.
C'est pas adapté à la masse. C'est adapté à la retouche photo à un petit nombre de photos. Pas encore à la masse.
Puis est-ce qu'ils prennent tous les formats de fichiers, par exemple le JPEG, le PNG, le TIFF?
C'est une très bonne question. J'allais faire en JPEG, mais j'ai pas essayé avec d'autres formats.
Le RAW serait un peu surpris.
Non, j'ai essayé le RAW.
Parce que même
essayé le RAW.
Ça m'aurait surpris moi aussi. Là, mais...
J'ai glissé, déposé, ça a rien fait. C'est rien passé. Le script.
Le serveur a explosé.
Ouais, c'est ça.
PSD.
Ah, mais c'est ça!
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, c'est de ta faute. Tu vois, tu l'as fait crasher. C'est pour ça que ça n'a pas marché.
T'as cassé l'Internet.
Ils devraient me remercier puis même me payer parce que je débug leur maudit site.
Bon, ben parfait. Alors,
bon, donc à surveiller, je dirais, ce site-là qui va être en développement, là, clairement.
Excellent. Ben, merci beaucoup. On va passer maintenant aux critiques des appareils Sony. Alors, j'ai eu la chance de tester les NEX 5R et NEX 6, donc NEX 5R et NEX 6. On va y aller avec le premier, le 5R. Et on entend la tablette de François qui siffle.
Oui, désolé.
qui cale l'orignal. Donc, le Sony NEX 5R qui vient avec un objectif 18-55 mm avec une ouverture maximale de f3.5 à f5.6. C'est un appareil d'environ $650. Pardon, $650 pour ne pas faire d'erreur de $500. Et bon, moi je dirais, toute la famille NEX a une excellente prise en main. Il y a vraiment le côté droit là, qui ressort du boîtier, qui nous permet vraiment de bien le tenir. Et on parle d'un capteur APS-C, donc l'équivalent d'un appareil DSLR. Réflexe, d'un DSLR. Donc ça permet de faire de la belle photo et même en basse luminosité. D'ailleurs, j'ai plusieurs photos que j'ai prises jusqu'en ISO 3200 sans avoir de grain ou à peu près pas. Alors que sur mon Canon 60D, déjà à 1600, ça commence à vraiment...
C'est quoi son maximum pour l'ISO?
C'est 6400 ISO. Donc de 100 à 6400. Et jusqu'à 3200, c'est utilisable. Donc.
Ah ouais.
Puis 6400, ça dépend. Ça peut dépendre de la couleur du sujet. Ça peut dépendre d'un paquet de trucs. Mm-hmm. Donc, c'est quand même impressionnant là, comme performance pour l'appareil. Son objectif est motorisé pour le zoom. Donc, non, excusez-moi, le 5R, le zoom n'est pas motorisé. Parce que là, Christian...
Ça se fait manuellement.
Christian a le 6 entre les mains.
Ah oui.
Et le zoom est motorisé. Donc, alors c'est ça. Le 5R, le zoom est vraiment manuel. Et en fait, je l'ai trouvé un petit peu difficile à tourner, peut-être parce qu'il était neuf. Là, éventuellement, peut-être qu'il va devenir plus facile à tourner. Mais je trouvais pas ça super convivial d'aller tourner l'objectif, là, c'était quand même... il y avait une certaine résistance à l'intérieur, on dirait. Mais bon, il y a la possibilité de changer d'objectif si on veut mettre un zoom ou des trucs du genre. Donc, ça peut être quand même intéressant. Et d'ailleurs, j'ai testé le zoom dans un petit spectacle que ma fille donnait. Et ça a quand même donné des bons résultats. Même avec un ISO assez élevé et tout ça, on peut... réussir à prendre les photos qu'on veut finalement, même s'il fait assez sombre, ça donnait des bons résultats. On a un écran tactile de 3 pouces qui affiche 921 000 points.
Ça, c'est la norme de plus en plus, hein, les écrans tactiles sur les caméras. Maintenant.
Oui, mais qui affiche 921 000 points,
ah oui?
C'est rare.
Okay,
on a du 460 000, parfois du 621 000, mais 921 000, ça commence à être intéressant. Alors, on se rapproche d'un million de points. Là,
ah oui.
Pour l'écran, donc...
Mais à la grosseur de l'écran, est-ce que ça vaut vraiment la peine?
Ben oui, parce que l'option que tu as quand tu visualises tes photos, dès que tu appuies sur le bouton zoom, tu la vois au maximum. Donc déjà là, tu vas voir si ton image est floue ou pas.
Tu vois du 1 pour 1, c'est
ça? Tu vois du 1 pour 1, et puis là, ouais. Tu peux reculer après, okay. Puis là, pour voir l'ensemble de ton image.
Ah ça, j'aime ça, que ça aille tout de suite droit au but.
Oui, donc tu vois directement le centre de ta photo, disons, à 1 pour 1. Puis là, tu vas voir tout de suite s'il y a du grain, du bruit,
flou.
Si c'est flou.
Ouais.
Donc, tout de suite, tu as le maximum possible de ta photo, puis tu recules après en tournant la petite roulette.
Ah,
là,
ça, c'est, j'aime la molette. Ça, c'est bon.
Ouais. Puis ce qui est intéressant avec cet écran-là, c'est qu'on peut le pivoter vers le bas, mais aussi vers le haut jusqu'à 180 degrés. Donc, il peut faire face à notre sujet,
ou
en fait, on peut s'en servir pour faire de l'autoportrait. Donc, puis quand il est dans ce mode-là, il détecte automatiquement et il met une minuterie, si on veut, de 3 secondes avant de prendre le cliché.
Ah ouais, OK. Oui.
Donc, ça nous permet, on appuie sur le déclencheur, on va vite se placer et voilà, on prend notre photo. Des petits détails comme ça, intéressants.
Ouais. Ouais.
Bon, évidemment, l'aspect tactile de l'écran permet de faire le focus exactement où on veut.
Ça, j'aime beaucoup, j'avoue. J'en ai essayé un, là, le Olympus Pen EPM2, puis j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé cette fonction.
Oui, OK. Ben, tu vois, moi, c'est le contraire. J'ai un peu de difficulté, peut-être, à m'adapter. J'ai l'impression que quand j'appuie dans l'écran, je fais bouger le boîtier en même temps, puis j'ai l'impression
Ouais, je sais pas. Ça m'a vraiment causé aucun problème.
OK.
Puis c'est ça, je sais pas, c'est peut-être, comme j'en étais conscient, je le tenais d'une façon différente.
Ouais, peut-être.
Puis ça me occasionnait pas de problème. Mais vraiment, ce que j'ai trouvé que c'était plus facile de composer justement avec ça parce que tu fais juste toucher, paf, il prend. Puis en tout cas, je sais, pour l'Olympus, c'était instantané.
Moi, ce que j'aime, c'est que c'est une évolution naturelle de quelqu'un qui prenait des photos avec son téléphone, par exemple, parce que là, c'est de plus en plus ça. On fait le point de focus avec, en touchant l'écran.
Ouais.
Quelqu'un qui décide de passer à ce type de caméra-là, c'est tout naturel.
Ben, y a une certaine,
ça, je trouve ça le fun,
convergence là, entre les téléphones et les appareils photo numériques. Et d'ailleurs, on va le voir dans quelques épisodes avec le Samsung qui roule une version d'Android.
Ouais.
Donc ça, ça va être intéressant. Des applications sur un appareil photo. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça.
Mais c'est ça,
François veut la tester.
Oui, oui.
On veut tous la tester,
on va se l'arracher.
Ouais.
Et bon, ce qui est intéressant aussi, on a le Wi-Fi pour transférer ses images sur un ordinateur. L'appareil a une molette pour sélectionner le mode de photo, donc manuel, semi-automatique ou automatique. Et on peut tourner de la vidéo 1080p à 50 images secondes. Et il y a un mode...
50?
Oui. C'est pas standard, mais c'est...
Ouais, c'est ça, c'est...
Mais tu vas voir, c'est que l'autre mode, avec une résolution un peu étrange, on est à 1440 par 1080. Donc c'est du 1080p, mais avec...
Non. C'est du 1080. Le 1440, c'est pas le nombre de lignes de résolution.
C'est la largeur. Oui. C'est les pixels en largeur. C'est ça.
C'est le 1080 qui est important ici.
Oui, je sais, mais c'est que ça donne une résolution comme les anciennes télé à tube.
4x3.
Donc, c'est du 4x3, probablement. Et ça, c'est du 25 images secondes. Donc,
trop de décisions. C'est pas grave,
en fait,
mais
non,
c'est
non,
juste...
On est en mode PAL. Donc, c'est le 25 images secondes.
Ah, ben oui. Oui.
C'est très normal.
T'as
et
raison.
C'est pas juste ça. La 1440, il y a quand même quelques appareils vidéo dans le temps, surtout au début du UHD, qui filmaient comme ça. Et après ça, qui, le logiciel, il déstretchait pour le ramener en 1920 par 1080. Ça économisait énormément d'espace sur la carte mémoire.
Ouais, mais
il y a un point important de ce que tu dis dans le temps. C'est parce
c'était pour les télés à tube qui était en format 4.3 justement,
mais
qui n'était pas en 16.9.
Plus là vraiment, c'est ça que je trouve particulier. Ouais. C'est pas, regarde,
mais
moi,
c'est peut-être
plus t'en donnes, mieux c'est. Moi, je chialerai jamais sur parce que tu me donnes plus de mode. Mm-hmm. C'est juste que c'est étrange, mais c'est pas grave.
C'est là. Donc,
sérieusement, si on fait pas de ce qu'on appelle du compositing avancé, le monde n'en verra pas vraiment de différence. On commence pas à toucher les grosses couleurs. Lorsqu'ils vont le décompresser pour le ramener en 1920 par 1080, personne ne va voir la différence.
Mm-hmm.
Si on commence à aller chercher, à aller s'amuser, puis là à changer les blacks, les noirs en réalité, à aller jouer dans les zones vraiment sombres de l'image, après ça dans les zones normales et dans les hautes zones, là on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de compression. Mais si on fait juste prendre la vidéo native sans compression, on n'a aucun problème à utiliser du 1440 par 1080.
Ouais.
Là, il faut dire que Mathieu, c'est un monteur aussi vidéo. Il parle dans un jargon. Moi, je comprends bien, c'est mon milieu. Je sais pas si tout le monde comprend, mais...
Par bout.
Ouais.
Ben, c'est ça. Évidemment, il y a des termes comme le recompositing.
Oui, c'est
ça. Il expliquait un peu, justement.
Pour être exact, je fais du montage et je fais du compositing. Fait que c'est encore pire.
Bon, j'ai plusieurs chapeaux.
Enfin, il y a ces modes vidéo-là. Ce qui est intéressant, puis moi, avoir cet appareil-là, ben, je les essaierai, puis je verrai qu'est-ce que ça donne, justement. C'est pas, justement, comme tu dis, Christian, plus il y a d'options, mieux
c'est. T'es pas perdant parce que trop d'options, t'es perdant quand il n'y en a pas assez.
C'est ça, quand il manque des trucs.
Voilà.
Donc ça, c'est parfait.
N'oublions pas que c'est un appareil photo à base.
Oui, absolument.
Et non un appareil vidéo, fait. Ouais. On va se contenter de ça, là.
Exact. Ouais, non, t'as 100% raison là-dessus, c'est un bonus, c'est pas...
Exact.
Mais ce qui manque un petit peu au niveau de cet appareil-là, mais pas seulement de celui-là, c'est de la gamme Next, je dirais, c'est qu'il manque un peu de choix dans les objectifs. Donc, pour ceux qui voudraient s'équiper, ça va venir éventuellement. Il y a des objectifs qui sont prévus en 2013, je pense. Puis bon, comme dans n'importe quoi, souvent avec le temps, ben, ce genre de problème-là se règle de lui-même. Mais c'est ça, ça pourrait être intéressant là, de voir des objectifs arriver sur le marché, là. À ce niveau-là.
Moi, je pense qu'ils sont quand même limités à moins de 10, si je me trompe pas.
J'en ai compté 13, mais c'est vraiment...
OK, je pensais que c'était Olympus qui en avait rendu comme 13, 15.
Ah, ça se peut.
Je pense que oui.
Il y en a peut-être juste
faudrait
7,
vérifier,
8,
là, mais il me semble qu'il y en a...
C'est
il y a une grosse différence entre les deux, entre Olympus puis Sony, une grosse différence.
Bon, Ensuite de ça, dans les points négatifs, en fait, moi j'ai trouvé que le bouton pour visionner les photos sur le 5R est situé sur le dessus du boîtier. Et j'ai pas trouvé ça super convivial, super accessible ou intuitif. Donc pour regarder ces photos, moi je cherchais toujours le bouton.
Ah ouais, parce que d'habitude c'est sur le dos.
C'est toujours au dos avec tous les autres boutons. Mais là, lui, il est sur le dessus, un petit peu moins pratique. Mais bon. Il n'y a pas de flash intégré, mais il y a la possibilité d'en ajouter un. Donc, à la limite, pour quelqu'un comme nous autres, c'est pas la fin du monde parce qu'on s'en sert jamais ou à peu près pas des flashs intégrés.
Non, puis comme tu disais, ta performance ISO est très bonne. Ouais, donc, absolument. En principe, le flash devient un peu plus inutile rendu à ce point-là, là, surtout pour des petits appareils comme ça. Là.
C'est ça. Ben moi, voyez-vous, j'ai pris des photos en vacances là, cet hiver avec mon X6 parce que je m'en suis acheté un. Puis je me suis servi du flash pour une photo parce que le sujet tenait absolument à ce qu'on voit des trucs qui était à côté de la personne, il fallait qu'on voit certains détails, puis la personne m'a dit, ben prends le flash, on va voir au moins ce qui m'entoure et tout ça. Sinon, je l'aurais pris sans flash, puis j'aurais dit, ben tant pis pour ce petit détail-là, mais bon, c'était important pour la personne. J'ai utilisé le flash, c'est la seule photo, et je la trouve horrible, la photo, mais bon, c'est mon goût à moi. Mais si je compare à toutes les autres photos où l'éclairage est naturel, la couleur, tout ça, j'ai eu beau retoucher un peu pour la sauver, entre guillemets. J'aime pas le résultat final non plus, là, mais bon, c'est mon choix.
Juste en passant, j'ai fait la vérification. Sony a environ 10 objectifs,
okay.
Et dans le cas de l'impute, 17. Okay. Il y a quand même une petite marge, mais c'est pas tant que ça.
Oh oui. Puis ça
on parle de c'est pas juste avoir. Sony, parce qu'il y en a certains qui sont compatibles Sony, donc c'est pour ça qu'ils sont inclus dedans.
OK. Ah ben merci de l'information. C'est live en plus.
Quand on peut la trouver, on en profite.
Ben oui. Et bon, le dernier point, ben j'avais parlé de l'objectif, en fait, qui n'était pas motorisé. Donc, c'est pas un gros défaut, mais en fait, le gros défaut, c'est qu'il est deux fois plus long que l'objectif du Nexus, qui couvre à peu près la même plage focale. Donc, ça, on parle d'environ 3 pouces, ce qui veut dire un bon 7 à 8 cm. Là. Donc, ça rend l'appareil moins compact, moins
facile à glisser dans une
moins
poche.
Moins mobile, si on veut, ou moins facile à ranger. Donc, ça, c'est un point... mais peut-être que c'était pour couper dans le prix global de l'appareil, ou peut-être parce que c'était la version est sortie un peu plus tôt que le 6, j'ai aucune idée.
Question mais, de coût, probablement.
Probablement. Et évidemment... Si on trouve un objectif motorisé comme celui que sur le 6, on peut le brancher au Nex 5R. Ça va fonctionner, là, je l'ai fait. Mais à la base, l'appareil vient avec un objectif qui est non motorisé. Et le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation optique au niveau du boîtier. Donc, il faut trouver un objectif qui est stabilisé. Mais bon, c'est pas la fin du monde, mais ça peut jouer justement en faible éclairage ou... quand les vitesses sont assez lentes. Donc, ça fait le tour pour le Nex 5R. Et au niveau du Sony Nex 6, lui vient avec, justement, un objectif motorisé, mais de 16 à 50 mm, plutôt que 18-55 pour le 5R. Au niveau de l'ouverture, on parle d'un f3.5 à f5.6. Et son prix, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit rabais dessus. C'était un hasard parce que j'allais me procurer l'appareil de toute façon. J'ai été chanceux. Donc, on parle entre 880 et 1000$ pour l'appareil avec l'objectif. Donc, on s'entend que à 880, c'est quand même plus intéressant. J'ai été chanceux. Bon, on parle toujours excellente prise en main, tout comme le Nex 5R. Même capteur APS-C, excellent pour les effets de flou artistique. Toujours la possibilité de changer d'objectif, évidemment. Et dans le 5R et dans le 6, on peut enregistrer en JPEG et en RAW, ou les deux. Donc, c'est quand même intéressant. Celui-ci, par contre, le Nex 6, peut monter jusqu'à 25 600 ISO. Donc, par contre, en ISO, ce que je pourrais dire, utilisable,
ouais.
6400, je vous dirais que c'est pas mal.
C'est quand même haut.
C'est pas mal.
C'est haut. Il y a du bruit, là. Il y a du bruit, mais...
C'est acceptable.
C'est mieux que ce que mon Canon 60D donne comme résultat. En tout cas, d'après mes quelques tests que j'ai faits.
C'est quasiment déprimant par bout, hein? Sérieusement. Là, moi, j'ai le même problème un peu que toi.
Oui, mais par contre, là-dessus, tu vois, j'ai une ouverture maximum de 3.5 à 5.6.
Ouais.
Tandis que sur mon Canon 60D, j'ai un objectif 2.8.
Oui, puis ça, c'est là que tu vas rattraper beaucoup d'informations.
Ben évidemment,
là,
l'objectif vaut à peu près le prix du Nexus.
Ouais.
Là,
mais ouais, ouais.
J'ai quand même cette.
Je regardais pour le fun justement un peu des objectifs parce que j'étais curieux à savoir s'il y avait un objectif similaire, puis pas vraiment.
C'est ça.
J'ai un 35 mm 1.8, bon, ça c'est pas mal.
Ouais.
J'ai un 50 mm 1.8. 16 mm 1.8. C'est pas des mauvais objectifs, mais c'est tout des fixes.
Focale fixe.
C'est tout ça. Des focales fixes. Mm. 30 mm 3.5.
J'ai l'impression là, que c'est ça. Il va y avoir une gamme d'objectifs qui vont sortir là, cette année. Puis ça va. En tout cas, ça donnerait un très gros coup de main à la gamme parce que ce sont d'excellents appareils. Et ben sinon, je me serais pas procuré le Nexus.
Non, j'avoue. Hein.
Mais bon, pour continuer. Du côté des points positifs, bon, on a des formats vidéo multiples. On a plus de formats vidéo que sur le 5R. On a du 1080p à 60 images secondes. Le son capté par la vidéo aussi, dans les deux cas, est bon. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même potable. Là. C'est un son acceptable.
Ouais.
L'écran de cet appareil-là, par contre, n'est pas tactile. C'est un écran de 3 pouces qui affiche aussi 921 000 points. Il n'est pas tactile et... malgré le fait qu'il pivote vers le haut et vers le bas, il ne va pas aller jusqu'à 180 degrés comme sur le 5R. Donc, honnêtement, ça m'aurait peut-être servi une fois ou deux, là, je vous dirais, durant mes vacances, mais pas plus que ça. Là. C'est...
On pourrait dire que c'est un appareil qui est un petit peu plus professionnel, oui. Si on peut dire ça.
Plus sérieux, peut-être.
Ouais, là, ouais. Que l'autre qui serait plus convivial dans la même...
Oui, ben c'est
qualité.
Ça. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est plus le prosumer qu'on vise un peu avec
c'est
ça.
C'est ça. Oui, oui. Ben de toute façon, avec un prix qui se rapproche des 1000$, c'est pas tout le monde qui va s'acheter ça. Là. Moi, c'est pour ça que j'étais heureux d'avoir un rabais intéressant parce que à 1000$, j'hésitais un peu. Mais là, ça m'a vraiment fait faire le saut vers Sony aussi pour comme deuxième appareil. Là. Ensuite de ça, bon. Après l'écran. On a le viseur, qui est un viseur OLED à 2,3 mégapixels. Et il n'y a pratiquement pas de délai dans le viseur. Ou en tout cas, on s'habitue très rapidement parce que je ne le remarquais plus vraiment après quelques dizaines de clichés. Et c'est ça. On a aussi une touche fonction, FN, là, une petite touche fonction programmable qui est très pratique. Donc, on peut décider quelles caractéristiques, quelles options on va changer en utilisant cette touche-là. Et il y a aussi le Wi-Fi intégré.
Je l'ai en main en ce moment, puis je viens d'essayer le viseur OLED et je dois dire que c'est assez impressionnant.
Oui,
c'est
vraiment.
La seule chose qui te fait dire que c'est vraiment pas un optique au milieu, c'est que les couleurs sont jamais exactement les mêmes. Là. Il y a toujours comme un ton orangé, j'ai retrouvé. Mais sinon, là, pour le délai, là, il est mineur. C'est pas comme la X100 qui avait définitivement pas le même, la même qualité, là.
Non, mais c'est sûr qu'au début, on remarque le délai,
ouais.
Mais on s'habitue vraiment
rapidement. J'en doute pas, j'en doute même pas.
Donc,
c'est
maintenant,
surprenant.
Il y a quelques petits points négatifs, mais c'est
oh
sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a l'écran qui n'est pas tactile, mais bon, pour moi, encore à ce moment-ci, ça demeure un gadget, c'est ça. C'est un extra. En fait, dans les deux cas aussi, la pile prend beaucoup de temps à charger. On parle de plus de 3 heures pour charger la pile.
Ouais.
Ben en fait, ma pile de Canon 60D est aussi longue. Par contre, elle va me permettre de prendre 2 à 3 fois le nombre de clichés.
Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça dépend du nombre de clichés que tu peux prendre. Est moyenne, donc, la pile?
Ben, c'est ça. Moi, je dirais peut-être un 300 clichés ou 350 clichés. Mais le truc, c'est que oui, je me sers beaucoup du viseur. Mais on sert beaucoup plus de l'écran qu'avec un DSLR.
C'est pour ça que je trouve le touch intéressant, parce que l'écran à l'arrière devient intéressant, tous les micros 4 tiers que j'ai essayé, honnêtement, j'ai rarement utilisé le viseur.
Ouais.
C'est l'écran qu'on utilise, mais...
Ben moi, je me sers beaucoup du viseur.
Mais sur lui, je l'utiliserais peut-être un peu plus.
Mais c'est ça. Puis ma conjointe qui l'a utilisé, d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je l'avais acheté pour aller en vacances, parce que moi, j'aurais probablement traîné mon gros 60D, mais si je voulais que ma conjointe prenne des photos,
ça prenait d'autres choses.
Ça prenait quelque chose de plus convivial, de plus compact, puis ben, j'ai opté pour ça. Puis justement, c'est ça. En fait, le dernier défaut, c'est que l'appareil est livré avec une option qui est activée et qui ne devrait pas l'être, à mon avis. C'est le zoom numérique 2X Et...
ça, je comprends pas pourquoi ils font ça par défaut.
Non, ça devrait être désactivé parce que avec l'objectif motorisé, on arrive rapidement aux 50 mm et on dépasse automatiquement en zoom numérique.
OK, il ne bloque pas, là.
Non.
J'ai vu des caméras qui ça te bloquait, puis il fallait que tu fasses un deuxième mouvement, tu sais,
pour y accéder. Oui, ça aurait été bien, mais non, ça le fait pas. Et il faut absolument aller dans le menu pour désactiver le zoom numérique. Ah. Ils appellent ça le zoom intelligent, je crois.
Ouais.
Mais non, il faut vraiment mettre ça
zoom
à off.
Stupid. Mais ouais. Vous devriez faire la... c'est la première chose que vous devriez faire.
Oui.
Aller désactiver
en
ça.
En achetant le Nexus 6, vous allumez l'appareil, vous mettez l'heure, la date et vous désactivez le zoom intelligent.
Ouais, ouais, ouais.
Et déjà, vous allez mieux apprécier l'appareil, sérieusement.
Vous devriez toujours désactiver le zoom
numérique
de toute
ça façon.
Vaut rien.
Oui, ouais, absolument. Enfin, ça fait le tour de la gamme Nex, en fait, des deux appareils que j'ai testés. Et je connais quelqu'un qui s'est procuré le Nex 3 récemment. Et il semblait très, très satisfait aussi. Donc, je pense que Sony...
Sais-tu... mais je pense que le Nex 3, c'est pas un APC...
Non, probablement que le capteur n'est pas
c'est
la
ça,
même
pas chose.
C'est pas
le capteur, je crois.
Mais en tout cas, il semblait très satisfait.
Non,
ça
j'ai entendu des bons commentaires.
Puis, ouais.
Ben, je pense qu'on l'a déjà mentionné auparavant, mais Sony a fait de très grands progrès depuis quelques années. Mm-hmm. Les nouveaux appareils Sony sont beaucoup mieux qu'ils étaient auparavant.
Et d'ailleurs, justement, tu vas nous parler du RX100, un modèle plus compact cette fois-ci, hein?
Oui, définitivement. C'est un modèle qui j'ai beaucoup apprécié. Bon, c'est quelque chose qui est relativement assez petit, qui se glisse facilement dans une poche. Bon, l'objectif est un peu plus épais, là, mais pas aussi épais, disons, qu'un micro 4 tiers, là, faut s'entendre, mais plus épais qu'un appareil compact. J'ai beaucoup aimé la prise en main aussi. Certaines personnes se sont plaintes qu'il n'y ait pas de
comme de poignée.
De poignée, exactement. De poignée pour la main. J'ai vu qu'il y en a qui ont trouvé le moyen d'en avoir une. Je pense qu'il y en a par collier, etc. Moi, c'est drôle, ça ne m'a pas vraiment fatigué, personnellement. C'est un bon plus, mais je peux pas dire que ça m'a fait... Donc, je m'en suis pas ennuyé. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que le boîtier semble assez robuste. Je sais pas c'est quoi le matériel exactement, mais en tout cas, on apprécie beaucoup. Là, c'est robuste, c'est solide. Il est beaucoup plus petit que le X10 que j'avais essayé.
De
Fujifilm, ouais. Exactement. Quand on commence, on prend le rapide à partir, rapide à démarrer. On voit tout de suite, quand on commence à prendre des photos, les images sont très belles. Là, beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, etc. J'ai été très satisfait, sincèrement, du côté de qualité photo. Pourtant, c'est pas un capteur qui est énorme. C'est ça, donc c'est un capteur d'un pouce. Qui est un petit peu plus gros que les capteurs compacts normaux, mais plus petit que la majorité des 4 tiers. Mais quand même, je trouve que pour le résultat, c'est assez impressionnant. On parle d'un objectif de 28 mm à 100 mm, avec une ouverture de 1.8 à 4.9. C'est un bon zoom. C'est dans la moyenne. Là. Je pense pas qu'il y a rien de bien exceptionnel de ce côté-là. L'écran est bon, on a des belles couleurs, une bonne résolution. La performance de la pile est assez surprenante. Là, on parle de 350-400 photos. Là. Moi, je considère que ça a du bon sens. Là. C'est pas si mal. Puis, je pourrais dire, ben, pour certains, ça, en tout cas, je reviendrai là-dessus, mais la pile se charge par USB. Tu n'as jamais besoin de sortir la pile de l'appareil. En fait, même que ça cause un problème... parce que tu peux pas utiliser de deuxième pile parce que t'as pas de chargeur.
OK.
C'est dans les points faibles, mais bon.
Ah, OK.
C'est étrange, mais...
ça, par USB, ça doit être lent comme recharge.
J'ai pas trouvé ça si pire que ça.
Disons, brancher dans un port d'ordinateur...
C'est ce que j'ai cru, moi aussi, ouais. mais pourtant, en fait... j'ai pas remarqué que c'était si lent que ça. Ça a pris comme 3-4 heures. C'est pas rien d'exceptionnel, rien de...
Ben moi je trouvais ça long pour le Nexus puis le Nexus.
Ouais, moi aussi, je trouve ça long, 3 heures.
Mais... moi, je chargeais en plus par la prise électrique, là. Mais bon.
Mais il y a un adaptateur, par exemple, qu'on peut plugger dans le mur. On plug l'USB dans le mur. Mais tu sais, quand même, je sais pas.
Mais il y a une différence, hein. Tu sais,
oui, je sais.
Dans
je
le
sais.
Secteur, dans l'ordinateur.
Oui. Je sais. Exemple, ma tablette Nexus 7, si je la plug dans l'ordinateur versus si je la plug dans le mur, il y a une très grosse différence.
C'est interminable.
Mais je sais pas. J'ai... en tout cas. Regarde, je vais être honnête, j'ai pas plugué dans l'ordinateur super souvent pour vérifier la batterie. Je l'ai plus plugué dans le mur, mais les quelques fois, ça m'a pas semblé si mal que ça. c'est à voir, là, mais ce que je trouvais commode, c'est si on veut transférer les photos, tu le laisses connecter, puis il charge en même temps. Fait que je trouvais quand même c'est un plus.
Oui, oui. Il fait du multitasking.
Ah, oh, c'est bien dit, ça. Donc, c'est ça. Puis, on parle d'un vidéo 1080p à 60 images par seconde. Fait que c'est quand même... ça aussi, c'est assez bon pour un petit appareil compact comme ça.
Oui, 60 images
par seconde. Je trouve ça bien. Il y a beaucoup d'options, on parle de taux HDR, de panorama, plein de petites choses comme ça. On a très bonne personnalisation, les menus, les choses, on peut faire... C'est un appareil qui est très versatile, on peut prendre de certains boutons, associer une autre fonction avec. Exemple, il y a autour de l'objectif, il y a un anneau qui peut être utilisé pour... changer l'ouverture, pour changer l'ISO, pour changer tout ça. Ouais. Ça, je trouve ça super le fun.
Ouais, ouais.
En contrepartie, parce que je vais tomber dans les négatifs, cet anneau-là est trop mou. On fait juste l'accrocher, puis il change les choses super facilement, mais vraiment trop. À mon opinion, là, c'est vraiment un gros problème. Parce que c'est arrivé souvent où ça a changé mes choses. Il n'y a pas de... Tu sais, comme quelque chose qui
n'est pas
de
résistance.
Exactement, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas assez de résistance. J'ai trouvé que ça, c'est un défaut. Vraiment, là, puis je lisais sur Internet, puis beaucoup de monde ont on trouve la même chose, c'est trop mou. C'est vraiment quelque chose qui est fatigant.
C'est amélioré.
Oui, définitivement. Mm. Toi aussi, bon, l'ouverture de l'objectif, quand le zoom est étendu à 4.9, là, c'est entre 8 et 8, 1.8 et 4.9, il y a une grosse marge entre les deux. Mm-hmm.
Si on est en mode automatique, la caméra va compenser avec le
ISO, exactement, c'est ça. Fait que
ça, on perd de la qualité. Là.
C'est ça, c'est moyen.
Mais justement, côté ISO, là, est-ce que...
Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, c'est très respectable. C'est très respectable, j'ai des photos à 1600 ISO qui sont correctes, que je considère utilisables.
Bon, déjà, parce que beaucoup d'appareils, à partir de 800, là, ça commence à se dégrader.
Honnêtement, ma 7D 1600, là, c'est tiré ça.
Moi aussi. Ma 60D à 1600. C'est pour ça, souvent, moi, j'ai vu des photos prises avec... c'est pour ça que je parlais des capteurs Nikon que je trouvais supérieurs en faible luminosité, parce que souvent, même en ISO 3200 ou 6400 à la limite,
le pire, c'est que tu as parfaitement raison. Il y a beaucoup de Nikon qui sont meilleurs que les Canon. C'est un peu leur... je cherche le mot trademark.
Leur
chasse gardée. Il y a quelques exceptions. Exemple, la 5D Mark III qui, semble-t-il, est exceptionnelle en ISO par rapport à d'autres. Vraiment
c'est pas
très
Mathieu, toi?
Non, il y a la 2.
La 2, OK.
Mais la 3, j'ai entendu que du bien là, par rapport à ça. Paraît que c'est exceptionnel. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est une chasse gardée pas mal de Nikon, ça, le ISO.
Mais Sony se débrouille bien, en tout cas, avec ses appareils.
C'est assez impressionnant. Jusqu'à date, je dois dire, là, pour des petits appareils comme ça, là, c'est impressionnant. L'autre petite chose aussi qui peut être tannant, c'est j'ai trouvé l'écran était dur à consulter quand il y a du soleil. Il est supposément qu'il y avait une technologie qui appelle White Magic qui permet de voir au soleil, mais ça. Pas convaincu.
Il y en a-tu des technologies ou des promesses de ce côté-là, mais maudit.
C'était très moyen. C'est très moyen. C'est drôle, tu sais, je regardais ma 7D, pourtant, moi, me semble, au soleil, j'ai pas de problème, puis celle-là, moyen.
Est-ce que tu as un protecteur sur ton écran de 7D?
Non.
Non, ok.
Non, je sais pas, j'ai jamais vraiment... Tu sais, ça m'a pas... comment je pourrais dire? Ça m'a pas frappé sur ma 7D, mais sur celle-là, j'ai fait comme... Ouais, moyen, très moyen. Mais c'est pas... regarde là, c'est pas quelque chose qui va faire que ça va vous empêcher de l'utiliser. C'est juste que c'est peut-être la comparaison entre un et l'autre. Tu sais, quelqu'un qui va la prendre dans ses mains va dire « Ah, mais c'est bien correct, mais moi, je suis habitué à peut-être mieux. » C'est peut-être juste ça, là.
Mais sur ta 7D aussi, tu sers peut-être pas autant de l'écran, tu sers du visage.
Non, mais je m'en sers pour vérifier les photos.
Ouais, ok.
Tu sais, je suis d'accord avec toi,
pour
c'est vrai.
Pour singer, comme on dit. Oui. Parce que tout le monde a l'air d'un petit singe à regarder ses photos après chaque clic que tu fais. Il y a un terme pour ça, c'est singer.
Oh,
c'est un terme culinaire aussi, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre podcast.
Oui, c'est ça. C'est drôle, quelque chose me dit que ça a le rapport avec quelque chose que tu fais normalement, ça.
Non, mais d'ailleurs, on a un projet spécial, un podcast sur la cuisine. Non, c'est pas vrai.
Ah ouais. Okay. J'ai quelques photos de cuisine que je pourrais soumettre. Fait que oui, si tu veux le faire, moi, je suis prêt. Là.
Non, ça va aller pour le
c'est
moment.
C'est ça. L'autre problème, comme j'avais mentionné au plus tôt, ben c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de chargeur de batterie. Donc, quand on a une deuxième batterie, on est mal pris. Je sais pas, j'ai pas fait la recherche à savoir si Sony vendait un chargeur pour, mais en partant, pour moi, c'est comme un problème. Parce que s'il faut que tu achètes un chargeur en plus de ta caméra, c'est tannant. Mais bon, en tout cas, ça doit se faire. Là, je peux pas croire que Sony a pas de chargeur pour ça. Ça doit se faire, j'en sais pas. Mais c'est un bon, c'est une mauvaise chose, comme je disais. Mais c'est juste que si tu vas avoir une batterie de plus, ben, ça te prend un chargeur. Fait que c'est ça. En tout cas, bref, j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon temps, qui a été malheureusement un peu trop court à mon goût, avec la RX100. Je dirais que c'est une caméra que j'aurais beaucoup considérée. Je cherche toujours une petite caméra là, à traîner un peu partout, puis elle vient de tomber plus haut. Là. Ben, tu sais, comme je disais, oui, j'aime beaucoup ma X100, mais la X100 est trop chère. Celle-là, au prix où ce qu'elle est, commence à être beaucoup plus intéressante. Je pense que c'est 550-600, si je me trompe pas. Commence à être beaucoup plus intéressante rapport qualité-prix. En tout cas, moi, je la recommande chaudement. Plus que la X10 que j'avais testée, que j'avais beaucoup aimé, mais il y a plusieurs choses dans celle-là qui font que j'aime mieux. Malgré l'ouverture qui est moins grand, qui était meilleure sur la X10, j'ai préféré l'ergonomie de la Sony. Les menus sont mieux organisés, qui était d'ailleurs un défaut de la X10. Je sais pas, c'est un appareil que j'ai vraiment apprécié.
À mon tour de t'apporter une information live, on parle plutôt de 650$ pour la RX100.
Ah, donc, ben c'est ça. Puis
de mon côté, moi j'ai fait une autre recherche, mon cher Christian. J'ai vu que oui, il existe un chargeur de batterie pour la RX100.
Le contraire m'aurait surpris. Là. Ça doit être encore un 40-50$.
Sur Amazon.
Ouais, mais tu vois, mettons 650 plus un 50 de plus, plus la batterie qui doit facilement être un 50-100$ de plus. C'est, ouais. Ben, tu sais, c'est pas essentiel, mais moi j'avoue que depuis que j'ai 3 batteries pour une caméra, je vivrais plus sans.
Ouais, ben 3 batteries, c'est...
Ben, moi, c'est parce que j'ai un battery grip avec 2 batteries, okay, fait ça. Que c'est pour ça. Là. 2 auraient fait la job, c'est juste que moi, comme j'en ai 2, ben je préfère en avoir une 3e.
Ouais, absolument. Mais avec 2 déjà, tu peux faire une rotation.
Exactement,
moi,
exactement.
C'est ce que je fais là, avec
mais moi. C'est ça, peu importe l'appareil, j'aurais toujours 2, là, maintenant, c'est sûr et certain. Fait que... En tout cas, moi, je le recommande chaudement, je trouve que c'est un excellent appareil. C'est ça, dites-nous ce que vous en pensez.
Excellent. Ben, on va conclure là-dessus. Alors, ben, merci messieurs encore pour cet épisode. J'espère qu'il a plu à nos auditeurs. Merci Mathieu.
Il n'y a pas de problème.
Et pour nous rejoindre, comme à l'habitude, c'est par courriel à podcast@objectifnumérique.com, sur Twitter, @numérique, et Facebook et Google+, Objectif Numérique. Et je vois François qui me regarde à chaque fois que je mentionne Twitter. Je sais pas pourquoi.
C'est drôle, il devrait te regarder quand tu mentionnes Google+, à mon opinion.
Aussi, ouais, en plus. Mais pourtant, François, Twitter là, vient de passer le cap du milliard d'utilisateurs.
Comme c'est intéressant.
On a un milliard de followers? Ok, non, c'est pas ça que tu disais, excuse-moi.
Non, mais ben, en fait, nous, on a passé le modeste chiffre des 300 followers sur
quand
Twitter.
Quand même.
On est à 310 à peu près.
Merci beaucoup.
Oui, merci de nous suivre. Et parfait. Quand on voit les chiffres augmenter, ça nous fait toujours plaisir et c'est très motivant.
Oui, c'est très motivant, exactement, ouais.
Alors, merci beaucoup de nous écouter et à la prochaine.